jour, de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, amis auditeurs, pour remettre en question nos croyances et nos préjugés sur le rhume. Oui, oui, le rhume. Le nez qui coule, la tête prise, les éternuements, encore de saison sous nos latitudes. Mais pourquoi et comment attrape-t-on un rhume? On a beau savoir que c'est un virus qui en est responsable. Pourquoi craint-on quand même d'attraper froid? Qu'est-ce que cela dit de nous, de nos croyances, de notre rapport à la santé, au corps, à la médecine et à la science? Voilà ce que s'est demandé Maëlle Lemoine, philosophe des sciences médicales, dans un petit essai irrésistible, petite philosophie du rhume, qui interroge avec humour nos préjugés en matière de santé. Préparez vos mouchoirs pour écouter cet entretien diffusé le 17 novembre dernier autour de la question « Peut-on attraper froid ?» Bienvenue pour le savoir. Bonjour Maëlle Lemoine.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous.
Merci de votre invitation.
Vous êtes enseignant en philosophie des sciences médicales à la faculté de médecine de Tours.
Absolument.
Auteur notamment d'une introduction à la philosophie des sciences médicales, on y reviendra, aux éditions Hermann, où vous venez de publier Petite philosophie du rhume, ou le remède pour ne plus jamais attraper froid carrément, c'est un peu audacieux. Comment la philosophie, Maëlle Lemoine, peut-elle nous prémunir du risque d'attraper froid?
Alors vous attaquez directement le vif du sujet. La philosophie peut vous permettre, peut vous préserver d'attraper froid, mais ne vous préservera pas d'attraper un rhume.
Parce qu'il y a une différence entre les deux,
absolument,
évidemment.
Absolument, exactement. Et c'est pour ça que je dis que c'est le cœur de la question. Tout simplement pour une raison très simple, c'est que la philosophie peut vous débarrasser, peut-être définitivement, en tout cas je l'espère, de la croyance que nous pouvons attraper froid.
C'est en fait votre démarche dans ce petit livre, c'est remettre en question nos croyances. Vous n'êtes pas le premier philosophe à le faire. Vous citez dans ce livre dessiné également avec des illustrations très étonnantes, Socrate qui se promenait déjà pieds nus sur la glace et qui n'avait pas peur d'attraper froid.
Absolument, oui c'est vrai. Alors Socrate ne disait pas que c'était parce qu'il n'avait pas peur d'attraper froid, mais manifestement il montrait par là que c'était bien le cas. Il n'avait pas peur d'attraper froid. Oui.
Autour de la question pourquoi et comment ne plus attraper froid, je vous propose de commencer, Maëlle Moine, par quelques pistes de réflexion forcément sonores et éternuantes sur le rhume avec le mix enrubé d'Apolline Verlon-Raison.
T'as la crème?
Ah oui, c'est ça, j'ai la crème. Petit rhume, je sais pas. Tu veux en attraper un, hein?
Bon, on va y aller nous.
Ah, attends, je vais lui montrer comment on attrape un petit rhume. C'est tellement simple.
Combien de virus peuvent donner le rhume?
Quand vous êtes enrhumé, vous vous sentez fiévreuse. Votre nez coule. Et vous vous mouchez sans arrêt.
Il n'y a rien à faire, si ce n'est attendre en s'hydratant bien.
Quelle est la différence entre un rhume et une grippe?
Quand on a le nez pris, le thym est un très bon désinfectant respiratoire.
Et ta grippe? Dès les premiers symptômes, réagissez.
On a l'impression de tomber beaucoup plus malade s'il fait froid, d'avoir attrapé froid, que quand on attrape un rhume à l'intersaison.
Vite, état grippal, rhume, rhinopharyngite. Dès les premiers symptômes, il faut faire vite.
Médicaments pour l'adulte contenant du paracétamol et un vasoconstricteur dans le comprimé jour, du paracétamol et un antihistaminique à effet sédatif dans la gélule nuit. Ne pas associer avec d'autres médicaments qui en contiennent. Prenez le dessus.
Quand maman est malade, elle doit réagir vite contre le rhume et s'assurer de protéger toute la famille contre les infections. Solution naturelle d'eau de mer hypertonique, lave et dégage le nez en cas de rhume ou congestion nasale.
Je suis...
Pour être en forme le jour et bien dormir la nuit. Pas avant 15 ans, ne pas utiliser chez la femme enceinte. Si les symptômes persistent plus de 4 jours, consultez votre médecin.
Avant de consulter son médecin, on va consulter notre philosophe des sciences, Maëlle Lemoine. Vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre?
Oui, c'est bien fait, hein, déjà. Alors ça me rappelle plein de choses, puisque j'ai réentendu certaines choses. Alors ben, c'est typique de la situation dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire que nous avons des informations de toutes parts, qui sont parfois contradictoires, qui sont même très souvent et de préférence contradictoires, de telle sorte qu'on ne sait plus trop à quel sein se vouer. Et il m'a semblé qu'un des rôles de la philosophie des sciences, c'était d'aider les gens, alors les philosophes des sciences d'abord eux-mêmes, hein, on est aussi concernés par le rhume, mais aussi les autres, à s'y retrouver dans ce maquis, je dirais, des connaissances et des croyances médicales.
Dans ce maquis des connaissances, l'actualité vient d'en rajouter une petite louche aujourd'hui avec une enquête publiée dans 60 millions de consommateurs sur les médicaments, les médicaments qu'on peut avoir sans ordonnance en pharmacie.
Absolument.
les plus nocifs, les plus toxiques, et parmi eux, beaucoup de médicaments anti-rhume.
Absolument. Et oui, c'est un point que j'ai peu évoqué dans le livre, mais tout de même, une partie de ces médicaments sont connus depuis longtemps, c'est pas nouveau. Hein. Les résultats de l'enquête de 60 millions de consommateurs sont généralement assez connus. Une partie de ces médicaments sont inactifs et inutiles. Ils sont utiles simplement à vous vider le porte-monnaie. Et quelques-uns sont même nuisibles. Alors, ils peuvent être efficaces sur les symptômes, ils le sont. Hein. On ne donnera pas de nom, mais on pourra se référer, enfin, vos auditeurs pourront se référer à cette liste. Mais ils peuvent être dangereux. Ils peuvent être vraiment dangereux.
C'est-à-dire, vous causez bien plus qu'un rhume. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rhume? Le moins de vous n'êtes pas médecin, vous êtes philosophe des sciences.
Absolument.
Mais qu'est-ce que c'est qu'un rhume?
Alors, c'est une entité tout à fait intéressante, parce que ce n'est pas une maladie. Ça ressemble plutôt à ce que les médecins appellent un syndrome, c'est-à-dire une conjonction de symptômes. Ça devient une maladie dans le langage médical quand on tient une cause unique. Alors ici, si vous voulez, ce qui s'est passé très vite, c'est que, on va dire traditionnellement, le rhume c'était seulement ce syndrome, c'est-à-dire cet ensemble de symptômes, etc.
Le nez qui coule, on était éternu, mal à la tête, et un peu fiévreux.
Exactement, il suffisait que vous ayez deux de ces symptômes pour qu'on se dise que vous aviez probablement, ou que vous aviez ce qu'on appelait un rhume. Et puis, il y a une cinquantaine d'années, un petit peu plus, on a établi définitivement que ces rhumes étaient dus à des infections, par des virus. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que rhume est devenu synonyme de infection virale. Parce que c'était une définition scientifique, c'était une définition dont on avait enfin la cause, on n'avait plus seulement le syndrome, mais la maladie. Et donc, c'est devenu une pathologie que les médecins, alors les médecins n'appellent pas ça rhume, mais appelleront ça par exemple...
rhinopharyngite.
Si elle est localisée dans le nez et dans le pharynx. Laryngite, si elle est dans le larynx. Otite, si ça se trouve dans les oreilles, etc., etc. Donc, ça peut avoir plusieurs localisations. Mais en tout cas, de manière générale, infection des voies aériennes supérieures. C'est le nom que les médecins donneront, parce que la localisation, finalement, n'a pas beaucoup d'importance, sauf évidemment pour le patient. Mais du point de vue médical, ça ne change rien. En
fait. Et que vient faire le froid dans tout ça? Parce que ce que vous mettez en avant dans nos croyances ou dans nos préjugés sur le rhume se retrouve dans les langues même, dans la plupart des langues. En anglais, on dit attraper froid, to catch a cold, mais il n'y a pas qu'en anglais, dans la plupart des langues, rhume est lié au froid.
Absolument. Alors c'est un fait quasiment universel. C'est-à-dire cette croyance est un fait quasiment universel. Elle n'est pas. Alors si elle est culturelle, elle est interculturelle et largement partagée dans les
elle
cultures
est humaine.
Du monde. Exactement. Et alors pourquoi? Et je pense qu'il y a une raison vraiment fondamentale à ça qui est toute bête et toute simple. C'est que chacun de nous fait l'expérience d'avoir le nez qui coule en étant exposé au froid ou d'avoir la gorge un petit peu irritée, une petite toux quasiment immédiatement après avoir été exposé à un grand froid. Ou imaginez par exemple que nous ayons un climatiseur là dans la salle braqué sur nous, très probablement au terme de notre conversation nous aurions un petit mal de gorge.
Mais ne pas confondre avec un rhume.
Exactement, et c'est là que c'est intéressant. C'est que historiquement nous appelions ça un rhume et les médecins ont découvert, si vous voulez, que c'est simplement un phénomène transitoire, ce phénomène dont nous parlons, par opposition au rhume qui lui va durer effectivement plusieurs jours. C'est une infection, donc un virus s'installe dans notre organisme, il faut le temps de s'en débarrasser, ça prend plusieurs jours, tandis que ce petit phénomène-là est transitoire.
Et donc le rhume n'est pas réservé ni au pays froid, ni à l'hiver dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, un rhume ça s'attrape partout sur la planète.
Absolument, partout
et en toute
dans
saison.
Monde. Absolument, partout dans le monde et en toute saison. Il y a des variations néanmoins saisonnières. Et c'est là aussi une deuxième source de croyance que le froid y est pour quelque chose, c'est qu'effectivement, on attrape plus de rhumes en hiver. Alors, pour vous donner un exemple qui a été étudié de près dans le monde, c'est le cas de Singapour. La température à Singapour varie en moyenne dans l'année entre 24 et 28 degrés. Donc, si vous voulez, un coup de froid à Singapour, c'est 24 degrés, si vous voulez. Voilà, alors que la température standard sera 28. Bon, en fait, ce qu'on observe, c'est que c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que les rhumes surviennent plutôt quand la température est plus élevée. Alors on se dira, bon, il n'y a pas. C'est à peu près la même température, mais c'est quand même très précisément, ça suit quand même très précisément les courbes, mais de manière exactement inversée.
Parce que ce sont les virus qui apprécient peut-être les températures plus élevées.
C'est une énigme scientifique à ce jour, en tout cas dans l'état actuel des connaissances telles que j'ai pu les voir, hein, peut-être que les choses ont avancé depuis, mais je n'ai pas trouvé d'explication à ce phénomène-là. Les auteurs des études que j'ai pu consulter posaient la question.
Ce qui veut dire aussi que cette croyance ou ces préjugés sur le rhume, on a du mal à s'en débarrasser parce qu'aussi il n'y a pas vraiment de piste, une piste unique qui nous donnerait toutes les réponses que l'on souhaite sur le rhume.
Vous voulez dire une hypothèse qui nous permettrait de comprendre comment ça fonctionne ou vous voulez dire un traitement unique qui serait efficace par exemple?
Je veux tout dire en même temps, mais comme vous êtes philosophe des sciences, vous avez bien raison de me reprendre.
Je fais la distinction, je pense que c'est important. Mais tout le monde la fera et vous la ferez avec moi. Les causes sont en fait à la fois uniques et multiples. C'est une infection virale, cause unique. Mais cette infection virale peut être produite par des centaines de virus différents, qui produisent tous le même effet. Ou plus ou moins les mêmes effets. Donc c'est six grandes familles de virus et certaines comprennent des centaines de souches virales différentes. Hein, ce qui explique par exemple qu'on n'obtient jamais une immunité contre le rhume. Vous pouvez être protégé contre une souche parce que le virus circule chez vous, là où vous habitez ou dans votre famille et vos proches. Vous l'aurez une fois, vous ne l'aurez pas deux, en tout cas dans une saison. Mais vous pourrez avoir à nouveau un rhume parce que tout simplement il y aura un virus un petit peu plus éloigné. Donc c'est à la fois une cause unique et multiple. Et pour les même raison, les traitements, et pour les virus, les traitements, c'est généralement le vaccin, sont très très peu efficaces. On peut faire des vaccins contre le rhume, mais ça sert presque à rien.
Attention au rhume, c'est Zanini qui éternue sur RFI.
Attention au rhume, on te l'a dit 100 fois. Attention au rhume, et c'est bien fait pour toi.
Et attention au rhume, et je l'attrape. Je fais attention, mais c'est pareil. J'ai un passe-montagne et deux écharpes. J'ai même du coton dans les oreilles. Mais elle tremble encore, mes omoplates. J'en ai des frissons jusqu'aux orteils. J'ai des courbatures et mal au crâne. J'ai la goutte au nez.
Zanini sur RFI, fallait oser. Attention au rhume, ça vous plaît, Maëlle Lemoine?
Ah, je trouve ça très bien, je ne la connaissais pas, c'est très drôle.
Autour de la question, peut-on attraper froid? Nous sommes donc en votre compagnie, vous êtes philosophe des sciences médicales, auteur d'une petite philosophie du rhume. Alors si le froid, on commence à le comprendre, ne semble pas y être pour grand-chose dans le fait d'attraper ou non un rhume, comment et pourquoi ça s'attrape aussi facilement? Nouvelle question posée par Caroline Tourbe, responsable des pages santé du mensuel Science et Vie.
Quand on attrape plusieurs rhumes dans le même hiver, est-ce que ça peut être le même virus, c'est-à-dire que notre système immunitaire il a oublié comment se défendre, ou est-ce que c'est le virus qui a changé? Comment on explique qu'on puisse attraper plusieurs rhumes dans une même saison?
Votre explication de philosophe des sciences, hein,
alors,
Maëlle Lemoine.
comme... alors, vous pourriez demander l'explication d'un scientifique aussi, qui pourrait être plus précis que moi. Mais globalement, comme on le disait tout à l'heure, déjà, il y a plusieurs souches. Donc on peut,
de virus.
Voilà, de virus. Et dans une même famille, par exemple la famille des rhinovirus, on peut trouver une centaine de souches différentes. Donc on peut dire qu'on a une infection à un rhinovirus, et puis on va faire dans la même saison, un peu plus tard, et c'est pas forcément à la fin de la saison, ça peut être très vite après, on peut faire à nouveau une infection à un rhinovirus. Ça dépend en fait du degré de ressemblance de ces rhinovirus. Ensuite, il y a une deuxième explication, et là je m'avance, mais on pourrait la vérifier, c'est que il y en a deux réponses du système immunitaire, une qui est rapide, automatique et globale, et une deuxième qui est à mémoire, justement à effet mémoire, si vous voulez. Et celle-là est plus lente à se mettre en œuvre.
Donc il faut avoir le temps de la développer.
Exactement. Donc si vous avez guéri plus vite, en fait, vous ne développez pas, vous n'avez pas le temps, puisque vous n'avez tout simplement pas besoin de développer une immunité acquise, si vous voulez, précisément sur ce virus-là.
Et on parlait tout à l'heure de la saisonnalité du rhume, donc qui n'arrive pas qu'en hiver, même sur l'année qui coule, donc il n'y a pas de rapport avec le froid. Par contre, il y a un rapport, vous le dites, parfois avec certaines saisons, notamment de rentrée des classes, c'est ça ?
Exactement. C'est-à-dire que cette observation, elle est tout à fait fondée, hein, cette observation qu'il y a plus de rhume en hiver. Mais la première chose dont on s'aperçoit en fait très mal souvent, c'est que le rapport, si je vous demande, mais à votre avis, quelle est la proportion ? Vous savez qu'il y a des rhumes en été, on peut attraper des rhumes en été, mais si je vous demandais comme ça, alors vous savez, puisque vous avez lu le livre, mais si on demandait à un de vos auditeurs quelle est la proportion, je pense que la plupart des gens diraient, écoutez, il y a peut-être un rhume en été pour 10 rhumes en hiver,
oui.
Quelque chose comme ça. Et en fait, le rapport est simplement au maximum de la courbe, hein, on va dire, du simple au double. C'est-à-dire quand on prend le minimum du nombre de rhumes dans l'été et le maximum dans l'hiver, on est seulement du simple au double. Donc ça veut dire qu'on a quand même un effet de perspective, c'est-à-dire qu'on veut à tout prix voir les rhumes en hiver, tout simplement pour cette raison qu'on vient d'évoquer, hein, c'est-à-dire cette croyance ancienne du froid. Mais il y a aussi des facteurs saisonniers qui peuvent expliquer...
La promiscuité notamment, on va y revenir hein, pour les rentrées des classes. Le rhume attaque-t-il seulement notre nez ? Nouvelle question pour vous, toujours de Caroline Tourbe de Science et Vie.
Est-ce que on peut avoir justement un rhume de l'œil ou un rhume de l'oreille ? C'est-à-dire, est-ce que le virus qui vous donne le nez qui coule et puis un peu cette envie de tousser peut se ficher, se coincer ailleurs dans le corps ?
Un rhume de l'oreille ?
Alors,
un rhume de l'œil ?
Eh oui, et vous le connaissez, le rhume de l'oreille s'appelle une otite.
C'est un rhume de l'oreille ?
Voilà. C'est-à-dire c'est le même virus. Toutes ces voies-là communiquent entre elles, hein, ce qu'on se représente pas forcément naturellement. Mais vous le savez bien, hein, quand si vous dégagez le nez avec du sérum physiologique, vous avez des larmes aux yeux parce que ça communique. Ou vous pouvez avoir l'oreille bouchée parce que le liquide aura coulé dans l'oreille. Donc toutes ces voies-là communiquent. Comme je le disais tout à l'heure, le rhume est une infection, est un des cas d'une infection des voies aériennes supérieures. Donc,
voilà pourquoi aussi les enfants ou les jeunes... Les bébés, les enfants attrapent plus facilement des rhumes, attrapent plus facilement des otites, sont plus souvent malades.
Alors oui, et puis c'est aussi d'ailleurs pour eux tout particulièrement, certains des virus qui peuvent nous donner des rhumes peuvent aussi atteindre d'autres organes et provoquer par exemple une gastro-entérite. Alors surtout chez les enfants.
Et est-ce que, alors on en revient au froid, à la croyance attraper froid, est-ce qu'il faut les couvrir justement nos enfants ou nous-mêmes ? Il faut se mettre un bonnet, des écharpes, une bouillotte, est-ce qu'il faut se tenir au chaud ?
Contre le rhume, non, de grâce, laissons-les tranquilles. D'ailleurs, ils vous diront, je peux vous dire, pour avoir fait un petit peu le test après avoir écrit ce livre, les enfants adorent les tests de ce livre parce qu'on leur fiche enfin la paix en arrêtant de leur dire tout le temps de se...
Métacagoule.
Voilà, exactement. Alors, les enfants comme les adultes sont vulnérables au froid extrême, donc il ne s'agit pas évidemment de mettre ses enfants dehors en maillot de bain par moins 15. Hein, mais si vous voulez, des températures comme celles qu'on a aujourd'hui, si un enfant n'éprouve pas le besoin de se couvrir,
une dizaine de degrés.
Il
n'y
a pas de raison. Voilà. Maintenant... comment dire,
évidemment... On a du mal pourtant quand même, hein, à ne pas se dire il faut que je mette une écharpe.
Absolument, parce qu'on aimerait bien qu'il reste bébé. Donc on continue à les traiter comme s'ils l'étaient. Et pour un bébé, ça peut être adapté. Parce qu'un bébé peut effectivement faire une hypothermie et ne pas s'en plaindre. Un enfant qui a froid, il vous dira qu'il a froid.
Donc en fait, il faut s'écouter simplement par rapport au froid.
Voilà. Alors, par contre, il y a d'autres risques liés au froid. Il y en a quelques-uns, hein, qui n'ont rien à voir avec le rhume. Vous pouvez attraper un torticolis avec le froid. Si on se couvre les muscles, notamment du cou, c'est bien utile pour ça. Et puis, c'est plus confortable.
Chaleur ou liberté, vous préférez quoi ? Autour de la question, peut-on attraper froid ? Nous, on préfère prendre un coup de chaud avec Beyoncé sur RFI, Fever.
Give me fever, fever.
Sur RFI qui nous donne la fièvre autour de la question peut-on attraper froid en compagnie du philosophe des sciences médicales Maël Lemoine qui interroge nos préjugés et nos croyances en matière de santé en général et sur le rhume en particulier dans un petit ouvrage irrésistible qui vient de paraître aux éditions Hermann, Petite philosophie du rhume, sortez vos mouchoirs, vous allez voir à quel point c'est contagieux le rhume sur le site québécois Tête à claque.
Monique!
Mais qu'est-ce que t'as encore, là?
Monique! J'en veux plus. Fais quelque chose, je pense que j'en serais bourré. J'en serais bourré, mais c'est tout de même.
Mais là, exagère pas, Lucien, là, c'est juste un petit rhume, là, ça va passer.
Non, oublie ça, c'est pas un petit rhume, là, c'est là! J'ai la gorge en feu, là, du frisson partout, là! C'est tout jamais, faut le barbe, là! C'est grave, moi, c'est grave, je le dis, c'est très, très grave.
Je sais pas si c'est très grave, mais en tout cas, c'est très, très désagréable, un rhume, Maël Lemoine.
Absolument, c'est une des plus communes petites misères de l'existence. Hein. C'est-à-dire, quand on comptabilise le temps total, il y a des gens qui sont amusés à faire ça, le temps total que vous passez enrhumé dans votre vie, on atteint en fait un compte qui s'élève en années. Hein. C'est-à-dire que vous passez 4 ans, 5 ans de votre vie...
À vous moucher.
Alors, exactement, à vous moucher, avoir le nez qui coule, avoir la gorge prise, etc. Avoir la voix.
On parle de rhume de cerveau aussi, quand ça monte.
Alors, non, c'est pas du tout quand ça monte, mais c'est très imagé. C'est une belle expression, rhume de cerveau. Mais en fait, l'origine, ça a une origine en fait très ancienne. Ça vient de la théorie d'Hippocrate. La théorie des humeurs d'Hippocrate. C'est-à-dire, l'idée était que le rhume était dû à une production en abondance de quelque chose que Hippocrate appelait une humeur, c'est-à-dire un des composants du sang humain ou animal, et cette humeur était censée être produite dans le cerveau. Et donc elle s'appelait ça s'appelle le phlegme, il appelait ça le phlegme, en latin on l'a traduit en appelant ça la pituite. Et comme on pensait que c'était le cerveau qui la produisait, eh bien on l'a appelé rhume de cerveau.
Mais en même temps, c'est une image qui fonctionne, parce que ces virus, hein, parce que c'est pas le froid, ce sont bien des virus qui nous attaquent ou qui nous agressent. Pour lutter contre eux, on a vraiment l'impression que le cerveau enfle un peu. Hein.
Eh oui, en fait, c'est surtout dû à la congestion du nez, tout simplement. Mais ça nous donne effectivement, ça peut nous donner facilement mal à la tête. Et donc, on a effectivement, c'est un des symptômes les plus classiques. Alors, notez aussi que le mot rhumatisme vient de là.
Rhumatisme du rhume.
Absolument, et l'expression rhume de hanche. C'était la même idée, c'est-à-dire que c'était la même humeur qui était produite par le cerveau et qui stagnait dans les articulations. tout le rhumatisme, ou dans la hanche, le rhume de hanche. Et donc ces expressions sont restées, même si évidemment les théories, ou plutôt les explications de ces maladies, n'ont plus rien à voir avec celles du rhume.
Mais malgré tout, effectivement, ça reste. C'est-à-dire qu'on a peur d'attraper froid, on a le sentiment qu'effectivement on peut avoir, même si les humeurs, on sait que c'est plus ça du tout, que ce sont des virus, ça reste. Et ça reste même, dans la prévention, on a du mal à faire passer autre chose. Alors comment justement se prémunir de ces rhumes qui ne sont pas dus au froid, qui ne sont pas dus aux humeurs, qui sont dus à des virus?
Alors, en se préservant de la contamination, c'est la seule chose vraiment efficace. Sauf que se prémunir d'un micro-organisme qui est absolument partout sur la planète, qui l'a colonisé bien avant que nous n'arrivions et qui s'y trouve très bien et dont nous sommes le terrain de survie, en quelque sorte, ou le terrain de jeu favori, on va dire, c'est quasiment mission impossible. Donc il faut prendre son mal en patience, vous allez attraper des rhumes. Alors maintenant, vous pouvez éviter, dans une certaine mesure, d'en attraper un peu trop. Et essentiellement, ça va consister en des mesures d'hygiène toutes simples. Et
c'est à peu près... Se laver les mains.
Exactement. Et c'est à peu près la seule chose qu'on puisse faire.
Alors, bonne nouvelle quand même, dans votre petite philosophie du rhume, on peut s'embrasser quand on a un rhume.
Oui, c'est une bonne nouvelle. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi en écrivant le livre. Et je trouve ça libérant, je dirais.
Oui, je suis d'accord.
De savoir qu'on peut... Voilà.
Surtout si on passe plusieurs années de notre vie à être enrhumé, il faut quand même qu'on puisse s'embrasser.
Exactement. Sinon, c'est un peu frustrant, en effet. Donc oui, c'est assez surprenant néanmoins. On se dit que si le virus se trouve sur le visage, dans les narines, dans l'écoulement des larmes, on doit le trouver sur la joue, et donc on doit facilement pouvoir se le transmettre. Mais non, ça ne fonctionne pas bien comme ça. Les études, en tout cas, pour l'instant, ont montré que ça ne fonctionnait pas tellement comme ça, mais plutôt en serrant la main.
En serrant la main, parce que ce virus, on le trimballe sur les mains, donc se laver les mains, et dans l'odyssée de ce rhinovirus, l'œil joue un grand rôle. Hein,
absolument,
quand même.
C'est quelque chose à quoi on ne pense pas naturellement. Hein. Je pense que tout le monde se dirait qu'en se touchant le bord du nez avec le doigt, on risque d'introduire un virus. Mais en fait, sans doute, la méthode la plus efficace, c'est de passer par l'œil. Parce que le canal lacrymal, effectivement, communique, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, avec le reste et donc avec le nez.
Donc, se laver les mains, pas trop se toucher les yeux ou la figure, mais on peut s'embrasser quand même. Moi, je retiens
voilà,
ça.
Voilà, hein. Exactement. Et je dirais même, vous pouvez, alors je dirais pas, vous pouvez vous passer de vous laver les mains, mais l'idée, c'est que surtout si vous arrivez à vous retenir de vous toucher le visage, a priori, vous n'avez quasiment aucune chance de contracter un rhume, mais c'est presque impossible à faire.
Donc c'est pas la peine de mettre une écharpe et un bonnet, il faut éviter de se toucher le visage pour ne pas attraper un rhume.
Voilà.
Autour de la question du rhume, et sans craindre donc d'attraper froid, nouvelle question pour vous Maëlle Lemoine, posée par le docteur Jean-Marc Benayem, médecin et hypnothérapeute.
La question qui me vient, ce serait pourquoi les mamans qui sont en charge d'un, deux, voire de trois enfants sont si rarement enrhumées ou si rarement grippées?
Vous avez une réponse, Maëlle Lemoine?
Alors, je n'ai pas vu d'études sur cette question, donc je dirais que je ne sais pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais simplement, ça ne semble pas avoir été trop étudié. On peut rapprocher néanmoins ce cas du cas de... On dit souvent que les médecins, par exemple, n'attrapent pas de rhume. Alors, il faut aussi savoir qu'un certain nombre, et même beaucoup de rhumes que nous attrapons, probablement passent totalement inaperçus. Ce qui nous paraît aussi surprenant, mais nous avons une infection. Simplement, le seuil de détection des symptômes n'est pas celui qui parvient, on va dire, ça ne parvient pas à la conscience, en fait.
Ou alors on est en assez bonne forme, ou alors comme ces mamans, on est trop occupé pour
exactement,
s'arrêter.
Quelle que soit la raison, on ne s'en aperçoit pas. Et donc il est possible que, en tout cas, certain qu'un certain nombre de virus passe totalement inaperçu. Pardon, d'infection passe complètement inaperçu.
Est-ce qu'on est tous égaux devant le rhume?
Alors non, probablement non, comme devant toutes les autres maladies. Il y a peu d'études là-dessus, mais on peut faire l'hypothèse, je dirais ce n'est qu'une hypothèse, mais très probablement les médecins feraient l'hypothèse que certains d'entre nous peuvent avoir, si vous voulez, vous savez, le virus se fixe sur une petite partie de nos cellules qui s'appelle un récepteur, et ces récepteurs, peuvent avoir des formes légèrement différentes d'un individu à un autre. Donc ils remplissent les mêmes fonctions, mais il peut se trouver qu'une petite variante fait que, par exemple, le virus ne s'accroche pas très bien, ou alors, au contraire, que le virus s'accroche mieux que dans la moyenne de la population. Ben, si vous êtes dans le premier groupe, vous aurez quasiment jamais de rhume. Si vous êtes dans le deuxième groupe, eh bien, vous aurez beaucoup plus souvent que les autres, probablement, des rhumes. Voilà.
Alors, pour ce qui est de la contamination ou des remèdes, on a bien compris qu'il n'y en avait pas vraiment. C'est peut-être ça aussi qui... C'est peut-être l'impuissance aussi de la médecine face aux rhumes qui fait tout de même, quoi, 17 milliards. Il y a 17 milliards de rhumes dans le monde.
Absolument, oui. C'est énorme. Hein. Ça fait une moyenne 17-18 milliards par an, en effet. C'est une estimation, bien sûr, hein, parce qu'on ne va pas s'amuser à aller compter tous les rhumes que chacun de nous fait. Donc, c'est une extrapolation statistique de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc, c'est un très grand nombre. Ça fait une moyenne de 3 par an, à peu près, par habitant de la Terre. Ouais.
Et la médecine est quand même assez impuissante par rapport à ça. Voilà pourquoi aussi peut-être nos croyances qu'on attrape froid,
prolifère. Voilà. Et puis et effectivement aussi le fait de tous les traitements qu'on peut nous proposer également. C'est normal, on veut se débarrasser du rhume. Et puis la médecine semble impuissante à s'en débarrasser. La raison principale, elle est dans ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire la multiplicité des virus et le fait que contre les virus, la seule arme efficace dont dispose la médecine aujourd'hui, c'est le vaccin.
Et le vaccin contre le rhume, vous l'avez dit, c'est trop compliqué. Hein. Déjà, le vaccin contre la grippe, on a du mal. Voilà.
Alors, ça n'est pas exclu, peut-être qu'un jour, quelqu'un trouvera un point commun ou, qui permettra de vous protéger assez largement. Mais comme on le sait, aucun vaccin n'offre une couverture parfaite et absolue et totale et ni permanente.
Vous êtes assez pour le grog, hein.
Alors, pour le grog, oui, pour le grog ou les tisanes, oui.
Ou les tisanes.
Mais personnellement, je dirais pas, parce que pas comme traitement du rhume. Parce que comme traitement du rhume, c'est alors de la même manière, on n'a jamais prouvé l'efficacité de ces traitements.
Je veux bien revenir justement quand vous dites on n'a jamais prouvé l'efficacité de ces traitements sur votre démarche de philosophe des sciences, parce qu'en fait vous nous démontrez simplement que nos croyances, ce sont des croyances, mais que ça peut marcher, hein, parce que quand on croit vraiment à quelque chose, ben on y croit très fort et ça marche ou pas. Donc vous êtes là pour nous dire voilà, ça n'est pas scientifiquement prouvé. On croit ça, c'est peut-être pas la peine de croire ça, mais si ça marche, tant mieux.
Voilà. En fait, je dirais, si vous voulez, le travail du philosophe des sciences, effectivement, c'est d'aider les gens, le philosophe des sciences lui-même, hein, à faire le tri dans ses croyances, etc. Ce que je disais pour commencer. Et ici, si vous voulez, ces études scientifiques, bah, parfois elles sont bien faites, parfois elles sont moins bien faites. Les médecins le savent, ils connaissent bien sûr les conditions pour qu'une étude soit faite ou bien faite et moins bien faite. Mais ce n'est pas un savoir seulement médical, je dirais. C'est un savoir scientifique plus général, c'est-à-dire est-ce qu'une étude est bien menée, etc. Et c'est ça qui nous manque, je dirais, à nous, alors peut-être pas à moi, philosophe des sciences, puisque je passe ma vie à étudier ça, mais je dirais à nous, plus généralement profanes, non scientifiques, c'est cette connaissance qui nous manque. Et c'est pour ça qu'on est perdu souvent dans ces informations, entre lesquelles on n'arrive pas à faire le tri entre une hypothèse qui nous est lancée comme ça, de manière légère sur les ondes, radio par exemple, et une étude scientifique sérieuse qui a pris des années, qui a été bien contrôlée, etc. Et ça, c'est très important. C'est comme ça qu'on fait le tri.
Alors pour faire le tri, par exemple, la vitamine C.
Oui.
Est-ce que ça fait du bien quand on a un rhume, la vitamine C?
Alors, la vitamine C, non. Ça ne fait rien du tout. En tout cas,
sauf si psychologiquement, ça vous fait beaucoup de bien.
Alors, si psychologiquement, ça dépend ce qu'on entend par bien psychologique. Ouais. Si vous aimez prendre la vitamine C parce que ça a un petit goût acide, d'ailleurs, la
vitamine
C.
Oui, et puis qu'on dit ça va me faire du bien.
Voilà, d'ailleurs, la vitamine C elle-même, par ailleurs, n'a pas du tout un goût acide, hein, elle est amère. Mais ce petit goût acide est associé pour nous à l'orange ou au citron qui effectivement contiennent beaucoup de vitamine C et donc c'est simplement un petit excipient ou un arôme on va dire qui est là pour nous rappeler psychologiquement que ça ressemble à l'orange. Je pense beaucoup de gens penseraient que c'est pas efficace si ça n'a pas ce petit goût là. Mais donc je ferme la parenthèse, mais ça montre bien si vous voulez en fait ce qu'on sait c'est que la vitamine C est importante pour l'organisme, elle est nécessaire, l'organisme ne sait pas la synthétiser donc on en a besoin, mais dans beaucoup de pays, pas partout, hein, mais dans beaucoup de pays, on en a largement assez dans l'alimentation pour être en bonne santé. Et on n'a pas besoin de supplémentation. Il y a une population néanmoins, très particulière, qui peut être protégée contre le rhume par la vitamine C. Ce sont les gens qui font des efforts physiques intenses, par exemple, très intenses. Par exemple, quelqu'un qui court un marathon. Donc dans la semaine qui suit ou dans les semaines qui suivent, là il est conseillé, et les études ont bien montré que là il y avait un apport très significatif au fait de prendre de la vitamine C
pour résister
contre le rhume.
Pour développer son immunité, en
Absolument.
Fait.
Absolument, parce que là, le système immunitaire subit un gros choc dans un effort de ce type. Et là, il aura besoin, effectivement, en tout cas, la vitamine C sera utile. Mais autrement, si vous voulez, c'est un peu comme si vous vous disiez « Ma voiture a besoin d'huile pour bien fonctionner, je vais en rajouter 10 litres au cas où. » Ça ne sert à rien.
Au cas où, ça sert à rien.
Et ça peut
rien.
Même être nuisible.
Ouais. Est-ce que les médecins, les scientifiques travaillent beaucoup sur le rhume ou est-ce que le rhume c'est banal, c'est une infection qui nous touche et nous touchera, mais on n'en meurt pas ou si peu.
Les chercheurs peu. Ça a été le cas. Il y a eu un centre très connu dans le monde qui a fait beaucoup de travaux et qui fait beaucoup avancer nos connaissances sur le rhume, qui était localisé en Angleterre. L'idée était effectivement qu'il y avait beaucoup. Les Anglais se disaient, on a beaucoup d'arrêts de travail et puis de gènes de la population à cause de cette infection bénigne dont on n'a jamais pu se débarrasser. Mais en même temps, si vous voulez, c'est vrai que si je vous demandais est-ce que vous préférez qu'on mette l'argent de la recherche dans le cancer ou dans les rhumes.
Ou contre le palu.
C'est évidemment des priorités de santé publique évidentes. Donc là, il est certain que toutes les réponses seraient unanimes. Néanmoins, il y a une deuxième chose qu'on peut dire aussi, c'est pour les médecins. Parce que là, je vous le dis pour les chercheurs, vous m'avez demandé pour les médecins. Pour les médecins cliniciens, ceux qui pratiquent, votre médecin traitant, par exemple, pour lui, c'est du quotidien. Et surtout en hiver, bien sûr, mais même autrement. Or, on voit, j'ai vu, et vous avez peut-être vu aussi, certains médecins généralistes qui placardent dans leur salle d'attente, qui vous disent « si vous avez tel et tel et tel et tel symptôme, rentrez chez vous. Vous n'avez pas besoin de venir me voir, on ne peut rien faire pour vous, attendez simplement que ça passe, signalez-moi si vous avez de la température et que ça dure, etc. Si vous avez des signes de gravité, mais on ne peut rien faire pour vous. »
Autour de la question du rhume, si on attrape plus froid, on continue, vous l'avez dit, d'attraper des virus, cette fois-ci c'est en musique avec Pink Floyd, Comfortably Numb, c'est votre choix. Maëlle Lemoine nous dirait pourquoi ensuite.
Is there anyone home? Come on, come on down. I hear you breathing down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first. Just the basic facts.
Floyd, Comfortably Numb sur RFI. Pourquoi ce choix, Maëlle Lemoine ?
Parce que cette chanson parle de maladie et d'une maladie vécue du point de vue de celui qui est malade, et avec des descriptions qui, je trouve, alors c'est pas du tout ce dont veut parler le chanteur ici, mais ce qui ressemble en fait beaucoup à ce qu'on peut éprouver quand on a une grippe ou un très gros rhume. C'est-à-dire cette impression qu'on est engourdi, qu'on est un petit peu à distance
dans
du reste
cirage.
Du monde. Voilà, dans le cirage, exactement. Qu'on est à distance du reste du monde, qu'on entend les voix au loin, qu'on est, etc. Voilà.
En tout cas, vous m'avez permis d'écouter les paroles de cette très belle chanson des Pink Floyd, Maëlle Lemoine. Justement, la différence entre un rhume et une grippe, c'est un énorme rhume ou c'est différent?
Alors, c'est assez flou comme distinction. En fait, globalement, de manière générale, souvent, effectivement, dans le langage, et les médecins le font aussi, on parlera plutôt d'un syndrome grippal ou d'une grippe si c'est plus costaud, disons, et si c'est plus léger, on parlera plutôt d'un rhume. Mais c'est, pour être plus précis, si vous voulez, certaines souches de virus qu'on rentre dans la catégorie du rhume, si vous voulez, peuvent être responsables, sont les virus de la grippe. Donc c'est, vous voyez, assez assez flou.
Frontière difficile à déterminer. Est-ce que, alors on a bien compris que le froid, même si en anglais ou dans beaucoup d'autres langues on dit qu'on attrape froid, n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Est-ce que c'est si stupide que ça de penser que ça peut être un virus et qu'on peut aussi attraper froid?
Alors, c'est, je pense, certainement la solution qui tentera beaucoup de nos auditeurs. C'est en fait la solution que beaucoup de gens ont trouvée. Mmh. Mais en réalité, vraiment, c'est tout simplement les éléments de la science nous disent ou tendent à nous faire penser que c'est déraisonnable de penser ça. C'est-à-dire, pas au sens où c'est grave, mais au sens où il n'y a pas vraiment de raison.
On n'attrape pas froid.
Voilà.
On attrape des virus et on n'attrape pas froid. Alors, pour prolonger votre petite philosophie du rhume, hein, c'est le titre de votre ouvrage, je propose un nouvel éclairage à remonter le temps, celui du philosophe, d'un autre philosophe, Pierre-Henri Tavoyot. On l'écoute.
Bon, c'était l'époque où la médecine était connectée à la philosophie. Donc, chez Hippocrate, chez Galien, où effectivement, la santé, c'est le fait d'être au bon tempo du cosmos. Et à chaque âge de la vie, il faut une configuration qui corresponde au cosmos. Et donc, s'enrhumer, d'une certaine façon, c'est un désordre, ou j'allais dire s'enrhumer, c'est ne pas être au rythme cosmique. Alors, ça avait beaucoup de sens dans les configurations des sagesses anciennes. S'enrhumer, aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus banal. Voilà, il faut prendre simplement des médicaments dans une vision un peu matérialiste des choses. Mais est-ce que ça suffit? Voilà. Est-ce qu'un bon rhume n'est pas malgré tout un révélateur de quelque chose de plus cosmique?
Que pouvez-vous répondre à cette question assez intemporelle, éternelle, soulevée par le philosophe Pierre-Henri Tavoyot?
C'est une très belle remarque, c'est une belle idée. De fait, effectivement, on a un petit peu désacralisé cette vision du cosmos. Ça, je pense que c'est assez incontestable. Maintenant, je dirais, c'est pas pour autant que... c'est pas parce que la culture évolue, on va dire. Hein. Donc, comme notre culture évolue, il n'y a pas de raison, si vous voulez, qu'on ne puisse pas réinvestir culturellement ce que nous savons aujourd'hui du rhume. Ni que nous puissions continuer à étudier ces conceptions anciennes avec un regard historique, avec, etc.
Qui ont peut-être quelque chose à nous dire quand même aussi.
Absolument, sur cette question de l'harmonie avec le cosmos. Alors on ne le dirait pas, les scientifiques ne le diraient pas dans ces termes-là aujourd'hui. Mais si vous voulez, il y a deux manières d'approcher ces conceptions. La première, c'est de les opposer frontalement aux données de la science, et la deuxième, c'est d'en faire en fait une vision du monde qui a un charme poétique et puis qui réenchante en quelque sorte un monde qui nous paraît un petit peu vide quand il n'est question que de molécules et de...
Et puis parce qu'on a aussi besoin en tant qu'humain de donner du sens à nos maladies, à ce qu'on traverse. Et parfois quand on a traversé un gros rhume ou une grosse grippe, on est content d'en être sorti, on a une autre énergie aussi,
on
a fait le ménage un peu à l'intérieur.
Complètement. Alors on sort là du domaine du philosophe des sciences. Donc là, c'est l'endroit où je vous quitterai en vous disant continuez à réfléchir parce que c'est aussi très intéressant, mais ce n'est plus mon domaine de spécialisation. En revanche, oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'on a besoin de donner du sens à ces événements qui nous touchent, et notamment à penser qu'on peut faire quelque chose, par exemple, contre le rhume, où on a du mal à se résigner à l'idée qu'on ne puisse rien y faire. Mais en même temps, il y a peut-être aussi une certaine philosophie à accepter qu'on
soit impuissant, voilà. Hein, parfois. Enfin, en tout cas, qu'on ne soit pas tout puissant.
Voilà, exactement. Et je dirais aussi, la puissance, et là c'est très, finalement très, très classique et très antique, la puissance que la philosophie des sciences peut vous donner ici, c'est le contrôle, qui est tout simplement le fait de comprendre ce qui vous arrive, et de ne plus chercher à donner nécessairement un sens symbolique très profond à un événement qui est finalement assez anodin et banal.
Oui, finalement il y a un peu d'humilité là-dedans. Que répondriez-vous à nos auditeurs au Togo innocents sur les réseaux sociaux qui nous demandent si le rhume a des effets bénéfiques pour l'organisme? Quelqu'un lui aurait dit un jour que c'est peut-être une manière de se débarrasser peut-être des impuretés.
C'est intéressant. Alors, je ne sais pas. Il y a peu d'études, il est vrai, sur les bienfaits du rhume. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de bienfaits d'une maladie donnée. Et il est vrai que souvent, là vous m'avez entendu beaucoup prendre le parti des scientifiques et de la science, mais il est vrai aussi que souvent les scientifiques ont parfois, disons souvent un biais qui consiste à considérer quelque chose est mauvais et à ne chercher que des choses mauvaises. Alors donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de bon, ça veut dire qu'on n'étudie pas ces
on a
aspects.
Pas cherché.
Voilà. Donc pourquoi pas. Alors après, je ne sais pas, il faudrait voir ce que signifie impureté exactement pour votre auditeur, en quel sens du mot. Mais en tout cas, oui, certainement, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas aussi de bons aspects.
Bon, tout est ouvert, Maëlle Lemoine, et une chose est sûre, on peut se promener pieds nus sur le carrelage en hiver, et c'est pas pour ça qu'on attrapera un rhume, c'est ça. Hein, ça,
absolument.
Faut ça, qu'on retienne ça.
Voilà.
Est-ce que vous-même, ça a changé votre rapport au rhume?
Oui.
Vous avez changé un peu le mien en lisant votre livre.
Ah,
c'est
bah j'en
ça.
Suis ravi, vraiment, parce que c'est, si vous voulez, c'est une ambition peut-être démesurée, mais je serais très fier d'avoir contribué à ce que beaucoup de gens dans le monde, disons, révisent leurs croyances et repensent à comment ils se comportent à l'égard du froid et du rhume.
Et vous-même,
dans ma vie, alors
ouais.
Dans ma vie aussi, bien sûr. C'est-à-dire que moi, j'étais plutôt, je dirais, convaincu, mais par défaut. C'est-à-dire que je n'avais pas été regarder vraiment les preuves. Et puis, c'est un jour ma femme qui m'a dit, mais tu dis à tout le monde que c'est les virus et c'est pas le froid, mais est-ce que tu as été vérifié? Puisque tu dis aussi qu'il faut vérifier ce qu'on dit quand on... Alors, je lui ai dit, bah non, tu as raison, mais si je fais ça, j'écris un vrai livre là-dessus. Et elle m'a répondu, bah si tu écris un livre, je le lirai.
Voilà. Et si je ne m'abuse, elle l'a très bien illustré, votre femme, c'est Sandrine Lemoine.
Absolument, oui.
Et ben on la salue, on lui fait un petit clin d'œil parce qu'elle a très joliment illustré ce petit livre. Merci Maëlle Lemoine d'être venu en direct partager donc votre petite philosophie du rhume qui vient de paraître aux éditions Hermann, à mettre entre toutes les mains, si on ne se met pas après les mains dans le visage, si bien compris, pour ne pas attraper un rhume.
Exactement.
On se quitte avec la brésilienne Flavia Coelho, playlist du mois sur RFI, c'est Inventa pour se réinventer ensemble et en musique. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster sur le site de RFI. Au plaisir de vous retrouver demain autour de la malicieuse question soulevée par le primatologue Franz De Waal. Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux? Avec Apolline Vernon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre curiosité, amis auditeurs, et de votre fidélité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à l'écoute de RFI. Le prochain journal, c'est dans une petite minute. Vapor.